VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 19 septembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Human Rights Watch a demandé hier à Kinshasa de respecter la liberté d'expression à la veille de la manifestation d'opposants au président Kabila.
Regain de tension dans la région de Kidal au Mali, une vingtaine de morts et 10 blessés au cours du week-end.
En Libye, reprise hier des combats contre les djihadistes du groupe État islamique retranché à Sirte, après 2 semaines d'accalmie.
En Syrie, crainte sur l'avenir de la trêve alors que le ton monte entre ses deux parrains, les États-Unis et la Russie.
Ouverture cette semaine de la 71e Assemblée générale de l'ONU. En levée de rideau, notre envoyé spécial à New York, Timothée Donangmai.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine.
Sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'organisation américaine Human Rights Watch a appelé hier les autorités congolaises à respecter la liberté d'expression en République démocratique du Congo à la veille d'une manifestation de l'opposition contre le président Joseph Kabila. Précision de Jean-Roger Bion.
L'opposition congolaise rassemblée autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à la manifestation pour signifier à M. Kabila son préavis de fin de fonction et exiger la convocation des électeurs aux urnes. M. Kabila, qui dirige la RDC depuis 2001, voit son mandat arriver à terme le 20 décembre, mais la Constitution lui interdit de se représenter. La présidentielle censée se tenir avant la fin 2016 apparaît comme impossible à organiser dans les temps. Samedi, la commission chargée d'organiser les élections a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle sollicitant un report de la convocation de ce scrutin. Dans son communiqué intitulé « La République démocratique du Congo au bord du précipice », Human Rights Watch appelle également les autorités congolaises à mettre fin à la répression et promouvoir les principes démocratiques. Jeudi, le gouvernement congolais s'était déclaré surpris par des accusations de répression systématique portées par Amnesty International en faisant valoir que les autorités avaient fait libérer en août plusieurs détenus politiques.
Au Mali, regain de tension dans la région de Kidal. Les combattants de la plateforme sous la houlette du Gatia continuent le combat contre la CMR. Il y a au moins une vingtaine de morts et 10 blessés dans les affrontements du week-end. Au moment où la CMR parle de violation du cessez-le-feu, la plateforme continue de s'installer dans de nouvelles localités qui étaient sous contrôle de la CMR. Pour davantage de précisions, Kassim Traoré à Bamako.
Depuis le vendredi 16 septembre 2016, les combats ont repris entre la CMA et la plateforme dans la localité d'Intachdeid, une oasis dans la région de Kidal, une base du MNLA. Il est tombé dans l'escarcelle du Gatia. Plusieurs dépôts d'armes et des véhicules y ont été récupérés. La localité est la base principale de Mohamed Najim, chef des combattants du MNLA. Les responsables de la CMA, en apprenant cette nouvelle, ont fait un communiqué de presse dénonçant la violation du cessez-le-feu et le non-respect de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les combats du week-end ont fait au moins 20 morts et une dizaine de blessés de part et d'autre. Certains blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Gao. Ce dimanche 18 septembre 2016, les combattants de la plateforme ont pris position à In Alid et à Ikadawaten vers la frontière algérienne et à Tina Fadimata dans la région de Menaka. A signalé que le Gatia a signé un accord avec le MSA, une dissidence de la CMA, afin de mener des patrouilles mixtes dans la région de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, la médiation de la CDAO ne semble pas avoir résolu la crise politique dans le pays. Depuis le passage de la délégation conduite par les présidents Alpha Condé de Guinée et Ernest Bai Koroma de Sierra Leone, la classe politique bissau-guinéenne ne s'est toujours pas entendue sur le choix du futur Premier ministre du gouvernement inclusif recommandé par la CDAO. De Bissau, correspondance de Noua Mankali.
L'accord de sortie de crise signé par les différentes formations politiques représentées au Parlement par le président de la République José Mario Vaz et l'Assemblée nationale populaire qui avait prévu entre autres la formation d'un nouveau gouvernement inclusif sans clarifier si le chef du gouvernement doit être désigné par la voie constitutionnelle ou par consensus des signataires de l'accord. Cependant, pour le Parti de Rénovation Sociale, deuxième force politique à travers son secrétaire général, Florentino Mendes Pereira, le document signé entre les partis représentés au Parlement et les responsables des institutions politiques n'a pas précisé à aucun parti politique le droit de désigner la figure qui doit diriger le futur gouvernement. La nomination du Premier ministre doit se faire, selon ce responsable, dans un cadre de dialogue entre les signataires. Dans une courte déclaration à la presse, le secrétaire national du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAGC, vainqueur des dernières élections législative, Ali Izazi a souligné que la constitution de la République donne l'obligation à son parti de désigner le futur premier ministre qui doit diriger ce gouvernement inclusif. Nouaman Kaibissao, VOA Afrique.
En Libye, les combats contre les djihadistes du groupe État islamique retranché à Sirte ont repris hier après deux semaines d'accalmie. C'est ce qu'ont annoncé les forces du gouvernement libyen d'Union nationale qui tentent depuis quatre mois de reprendre cette ville. Plusieurs fois annoncée comme imminente, la reprise de l'ex-bastion du groupe terroriste en Libye se heurte à la détermination farouche des derniers djihadistes désormais acculés dans une petite zone de la ville portuaire située à 450 km à l'est de Tripoli.
Le Soudan a menacé hier de fermer sa frontière avec le Soudan du Sud si Djouba ne respecte pas son engagement à expulser les groupes insurgés qui combattent les forces armées de Khartoum. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis la sécession du Soudan du Sud en juillet 2011, devenu État indépendant après un accord de paix qui avait mis fin à une longue et dévastatrice guerre civile. Khartoum et Djouba s'accusent mutuellement de soutenir des rebelles sur leurs territoires respectifs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, la trêve ne tenait hier qu'à un fil après les frappes accidentelles de la coalition contre l'armée syrienne dans l'Est et les premières aides depuis une semaine à Alep, développement qui risque de rallumer le principal front du conflit. Cette dégradation survient alors que le ton est brutalement monté entre les deux parrains de la trêve, la Russie et les États-Unis, qui s'accusent mutuellement de faire capoter le cessez-le-feu.
Cette trêve devrait dominer les discussions en marge de la 71e Assemblée générale de l'ONU, grand rendez-vous diplomatique annuel qui s'ouvre cette semaine à New York. De nombreux leaders du monde y prennent part. Le point avec notre envoyé spécial, Timothée Donangmaï.
Cette 71e Assemblée générale de l'ONU planchera sur la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux différentes crises qui embrasent le monde, notamment la guerre en Syrie, qui déverse des millions de réfugiés en Europe, et le drame des centaines de milliers de migrants, notamment africains, qui continuent de tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée en quête d'une vie meilleure. Preuve du haut niveau d'attention accordé à cette situation, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, présidera un premier sommet ce lundi sur les réfugiés, suivi d'un autre présidé mardi par le président Barack Obama. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion de haut niveau mercredi sur la Syrie. Autant d'initiatives qui visent à examiner les causes profondes des conflits et des déplacements massifs de populations, proposer des solutions dans les pays de départ et soutenir les pays d'accueil pour qu'ils répondent de leur mieux à la détresse des millions de réfugiés frappant à leurs portes. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
Pour rester à New York, les autorités américaines affirmaient hier ne disposer d'aucun élément pour relier les trois attaques perpétrées samedi à New York, dans le New Jersey et dans le Minnesota. Mais la peur du terrorisme intérieur ou djihadiste était dans tous les esprits. De tous ces attentats, un seul a été revendiqué pour l'instant, celui du Minnesota, par l'organisation djihadiste État islamique.
Deux de ces attaques quasi simultanées ont fait au total 38 blessés, 29 dans l'explosion de samedi soir dans le quartier huppé de Chelsea, au cœur de Manhattan, et 9 autres lors d'une attaque à l'arme blanche revendiquée par le groupe djihadiste État islamique dans un centre commercial de St. Cloud, petite ville du Minnesota dans le Midwest américain.
Selon la police, une deuxième bombe artisanale, une cocotte minute, munie de fil et d'un téléphone portable, selon les médias, qui n'a pas explosé, avait été découverte samedi soir près du lieu de l'explosion à Manhattan.
Plus tôt samedi, dans le New Jersey, une bombe artisanale avait explosé dans la ville de Seaside Park sur le parcours d'une course à pied à laquelle participaient des centaines de coureurs. Elle n'a pas fait de victimes, sans doute parce que le départ de la course avait été retardé, selon un porte-parole du procureur local. 3 autres bombes à retardement ont été retrouvées sur place qui n'avaient pas fonctionné.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé ce week-end la Corée du Nord à geler son programme nucléaire et à entamer une négociation sérieuse sur son avenir. Nous avons dit souvent que nous étions prêts à nous asseoir avec la Corée du Nord pour parler des questions de non-agression et de paix, ainsi que de développement économique, a déclaré M. Kerry lors d'une rencontre à New York avec ses homologues japonais et sud-coréens.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
La compagnie aérienne sud-africaine est plongée dans une crise emblématique de la mauvaise gestion reprochée au chef de l'État Jacob Zuma, qui nourrit l'inquiétude des marchés financiers. La semaine dernière, le gouvernement a de nouveau volé au secours de South African Airlines en débloquant un prêt garanti de 290 millions d'euros. Selon l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, l'État a déjà englouti près de 1,2 milliard d'euros dans la compagnie. L'agence de notation internationale Standard & Poor's a baissé d'un cran la note de la dette du Nigeria vendredi, estimant que l'économie du pays s'était dégradée au-delà des précédentes estimations compte tenu de la chute de sa production de pétrole. Un nouveau code d'investissement censé favoriser le climat des affaires en Tunisie a été voté samedi par le Parlement dans l'espoir de relancer l'attractivité économique du pays. La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le football à la une avec les demi-finales allées de la Ligue africaine des champions et la très belle opération des Égyptiens du Zamalek.
Oui, les chevaliers blancs cartonnent face aux Marocains du Wydad de Casablanca, succès 4-0. Le Zamalek, 5 fois champion d'Afrique, prend une sérieuse option sur la finale. Une défaite qui a d'ailleurs valu le limogeage de John Chutak, l'entraîneur de WAC. L'autre demi-finale allée a vu la courte victoire des Zambiens de Zesco United 2-1 face au Sud-Africain des Mamelodi Sundowns, un but inscrit à l'extérieur qui comptera double en cas d'égalité entre les deux équipes à l'issue des deux rencontres. On rappelle que les matchs retour auront lieu le 24 septembre prochain.
En Coupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe est allé chercher le nul face à l'Étoile du Sahel.
Bonne opération pour le club de Lumbashi qui repart de Sousse avec un bon match nul face à l'Étoile du Sahel. Dans ses bagages, score nul, un but partout. L'autre demi-finale allée de cette Coupe de la Confédération a vu le Mobeja tenu en échec à domicile par le fils de Rabat, score final 0-0. Un match ouvert le 25 septembre prochain à Rabat pour une place en finale.
Coupe d'Afrique des Nations de football des dames, dont la phase finale aura lieu au Cameroun, le tirage au sort a eu lieu hier.
Oui, un tirage au sort qui a eu lieu dans le palais des sports de Yaoundé et 8 équipes étaient en piste. Dans le groupe A, nous avons le Cameroun, le pays hôte, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le groupe B est composé du Nigeria, la tenante du titre, du Mali, du Ghana et du Kenya. À noter que cette CAN féminine se tiendra au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre 2016.
Week-end africain également pour les moins de 17 ans. Le troisième et dernier tour aller des éliminatoires de la CAN était au programme.
Oui, cette CAN des moins de 17 ans dont la phase finale se disputera l'an prochain à Madagascar. Alors, une équipe a déjà quasiment son billet, c'est l'Angola, vainqueur des Comores à Luanda 5-0. De même pour le Soudan, vainqueur du Cameroun 4-2. La Guinée est allée battre le Sénégal à Dakar 1-0. Le Mali se met à l'abri face à l'Éthiopie, score 2-0. Le Ghana s'impose face à la Côte d'Ivoire 3-1. Pour le reste, la Tanzanie a eu raison du Congo Brazza 3-2. Le Niger à domicile l'emporte face au Gabon 1-0. A noter que les matchs retour auront lieu dans 2 semaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dialogue national congolais, les discussions se poursuivent ce lundi en République démocratique du Congo. L'accord annoncé récemment n'a pas pu être signé samedi dernier suite à un désaccord entre la majorité et l'opposition au sujet du calendrier électoral. Les opposants tiennent à tout prix à avoir un calendrier des élections avant la signature de l'accord, alors que la majorité veut laisser à la CENI le temps de poursuivre la révision du fichier électoral avant d'avancer des dates. Reportage de Gino Rehema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pas de date de l'élection présidentielle, pas de signature de l'accord politique. L'opposition au dialogue reste ferme sur sa position. Vital Kamerhe.
Nous sommes ici, c'était pour trouver une solution à un problème précis, la non-tenue dans les délais de l'élection présidentielle. Et voir ensemble, est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir un atterrissage en douceur? Est-ce que dans un délai raisonnable, dans les temps nécessaires pour ces élections-là, nous pouvons donner un temps à la CENI pour le faire? Mais nous avons dit que nous signerons l'accord qui va sanctionner les travaux de ces dialogues. C'est l'une des conditions. Donc nous devons, comme nous l'avons fait pour les fichiers, nous l'avons fait pour la séquence des élections, nous devons avoir une date, des dates précises pour la convocation du scrutin présidentiel, pour la tenue de l'élection et pour la passation de pouvoir.
Et du côté de la majorité, chercher à connaître la date de l'élection présidentielle avant la fin de la révision du fichier électoral est insensé. Léonard Cheokitundu.
La date de la présidentielle ne peut pas être fixée maintenant tant que le processus de révision du fichier électoral n'est pas terminé. Ce serait insensé. Comment vous allez faire? Le fichier électoral est actuellement en état de révision. Et la CENI a demandé un temps pour pouvoir réviser le fichier électoral. C'est à partir de ce moment-là seulement que la commission électorale indépendante va élaborer le calendrier. Vous saurez tout lundi. Nous avons adopté le rapport et maintenant, il reste 2 problèmes que nous devons examiner lundi dans l'après-midi. Celle relative au calendrier électoral et là, nous allons entendre le président de la commission électorale indépendante.
La société civile, quant à elle, attend avoir tous les éléments techniques avant de se faire une idée sur les dates de la tenue des différentes élections. Jonas Tchombela est de la nouvelle société civile congolaise.
Nous avons la séquence qui est déjà connue, mais cette séquence va se dérouler à quel moment? Il faudra qu'on ait encore une partie supplémentaire. Cette partie supplémentaire sera retransmise en direct avec les experts qui expliqueront à la communauté et nous-mêmes qui sommes participants à ce dialogue comment techniquement on peut arriver à élaborer un calendrier et comment techniquement cela peut nous coûter et à quelle date précise on peut obtenir ce travail.
Le dialogue politique congolais entre dans sa dernière ligne droite. Tout se joue donc ce lundi à la Cité de l'Union africaine. La position de l'un ou l'autre camp sera connue après la présentation des experts de la CENI. Depuis Kinshasa, Gino Rehema de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, poursuite des préparatifs du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique prévu à Lomé en octobre prochain. Dans cette perspective, la sécurité est renforcée dans le pays, les grandes artères de la ville s'embellissent et les contrôles d'identité deviennent de plus en plus fréquents. Que pensent les Togolais de ce sommet? Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis quelques mois déjà, Lomé se prépare à accueillir l'Afrique du 11 au 15 octobre prochain pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Quelle compréhension les Togolais ont de ce sommet ? Ils se prononcent.
À travers ce sommet, je pense qu'il n'y aura plus de braquage en mer, par exemple. Même s'il y en aura, ce sera réduit. Donc, ce sommet va profiter beaucoup à ceux qui travaillent au bord de la mer, à ceux qui conduisent des bateaux et bref, aux gens qui travaillent dans le domaine maritime.
Maintenant, les infrastructures qui viennent de l'Occident par voie maritime seront en sécurité.
Premièrement, il faut que ce sommet puisse toucher des questions de l'immigration clandestine. Secondo, les questions de terrorisme, parce que les armes qui sont convoyées vers les terroristes passent toujours par les mers.
Depuis 2000, le Togo n'a plus organisé un sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Avec ce sommet de l'Union africaine, le Togo va signer non seulement son retour, mais aussi en tirer un profit économique, estiment ces Togolais.
Ce sommet, c'est déjà bien, parce que cela permet au Togo de se développer en matière d'économie. Les chambres d'hôtel seront occupées. Déjà, c'est un plus pour le Togo.
Je pense que c'est pratiquement tous les domaines de notre pays qui sera positivement impacté par ce sommet.
Rassembler les plus hautes personnalités des 54 États d'Afrique implique une sécurité de haut niveau, surtout dans un contexte de menaces permanentes d'attaques terroristes en Afrique de l'Ouest. Le pays a pris la mesure de la chose et renforcé sa sécurité. Les agents des forces armées, visibles au point stratégique de la ville de Lomé, ne semblent guère gêner la population. Elles saluent plutôt l'initiative qu'elles veulent durable.
Nous sommes dans un contexte sous-régional très difficile, surtout avec les attaques des djihadistes et autres. Je pense que ça vaut la peine que cela se fasse.
Quand je vois les agents de sécurité partout, ça me fait peur parfois. Les voitures blindées et avec des balles. Et parfois, j'ai peur à ce que peut-être ils vont tousser pas mes gardes et cela peut m'atteindre. J'ai peur. Et mais en tout cas, c'est pour la sécurité de ce sommet. Et je trouve que c'est pas mal quand même.
C'est vraiment important que la sécurité soit renforcée. Sécurité pour le sommet, d'accord, mais sécurité aussi après le sommet.
Alidou Mohamed, étudiant, espère que les recommandations issues de ce sommet auront un sort différent des autres rencontres internationales qui se tiennent sur le continent.
Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de rencontres, surtout dans nos pays d'Afrique, qui ne donnent rien à la fin. Est-ce que ce sommet sur la sécurité et le développement en Afrique sera encore la même chose? Et donc, vraiment, je souhaite que ce sommet sur la sécurité maritime puisse apporter quelque chose de nouveau.
Reporté déjà à deux reprises, le Togo tient à cette rencontre qui ne sera un succès que si la charte sur la sécurité maritime en Afrique est adoptée, avait laissé entendre le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, le 2 juin 2015, au cours de la conférence de presse annonçant l'événement. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a réussi samedi à collecter près de 13 milliards de dollars pour financer les traitements afin d'éradiquer ces trois épidémies d'ici à 2030 dans le monde. Cette lutte doit cependant faire face à la résistance aux antibiotiques, a mis en garde Ban Ki-moon, qui a invité les chefs d'État et de gouvernement à en discuter mercredi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Pour parler de ces assises du Canada, John Lyndon a joint Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
On peut d'abord retenir le fait qu'on a réussi à atteindre le montant de 13 milliards de dollars qu'on voulait avoir. Ça rehaussait l'image du nouveau gouvernement canadien qui cherche à s'impliquer de plus en plus dans les affaires des Nations Unies, contrairement à l'ancien gouvernement qui voulait aller seul avec d'autres puissances, quoi. Et donc, on doit dire que c'est une très bonne occasion. Ce fonds, comme vous le savez, a été fondé sous le gouvernement de George Bush en 2002 et l'une des plus grandes réalisations à l'international, disons au développement international de George Bush, qui au début on pensait qu'il ne s'intéressait pas beaucoup à l'Afrique. C'est les États-Unis aussi qui ont donné le plus grand montant, à peu près 5 milliards de dollars. Donc ça continue quand même, le président Obama continue dans la même veine.
Qu'est-ce qui a été dit pour ce qui est des avancées au plan médical notamment et de la prise en charge des malades, oui, s'agissant aussi bien du sida, de la tuberculose que du paludisme?
Cette réunion avait pour objectif de dire que d'ici 2030, donc dans 14 ans, qu'on puisse mettre fin à toutes ces maladies, et notamment les sida. Le paludisme en Afrique tue plus que les sida, mais très souvent on n'en parle pas. Il y a eu des avancées, mais ce n'est pas encore totalement dire que ça peut complètement anéantir la maladie de cette façon-là. Et les gens ont posé aussi des questions assez claires. Par exemple, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, qui a dit qu'il ne faut pas juste se baser pour anéantir ces maladies. Et puis ces maladies-là, très souvent, elles sont d'origine de désorganisations économiques, souvent des pays, et même politiques, puisque c'est ça la question qu'elle n'a pas osé dire très clairement.
Quelle a été la place de l'Afrique au cours de ces échanges, sachant que le continent africain est le plus touché, qu'il s'agisse du sida, de la tuberculose ou même du paludisme?
Les Africains, disons qu'il y a eu pas mal de chefs d'État africains, puisque ce qui est intéressant, c'est le fait que cette réunion a eu lieu quelques jours avant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui fait que plusieurs chefs d'État ont fait un détour par Montréal avant d'arriver à New York.
À votre avis, est-ce qu'il y a lieu de garder espoir ou pas?
L'espoir est permis. Je pense que c'était le fait de voir que ça a pu se faire en très peu de temps et que les gens ont répondu assez facilement, puisqu'on peut voir exactement que les premières personnes, les États-Unis d'abord, ne se sont pas découragés. Disons qu'ils ont continué à donner presque 40% du montant.
C'était Chika Kanyeri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique. Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump accuse encore sa rivale démocrate Hillary Clinton de laxisme quand il s'agit de l'immigration illégale. De nouveau, John Lydon.
Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a encore accusé sa rivale démocrate Hillary Clinton de laxisme sur la question controversée des immigrants illégaux, affirmant que présidente, elle n'appliquerait pas les lois sur l'immigration et mettrait le pays en danger. L'homme d'affaires était en campagne ce week-end à Houston, au Texas, où il a parlé devant un groupe qui affirme avoir eu des amis et membres de leur famille tués par des immigrants illégaux. Un grand nombre portait un T-shirt avec l'inscription « Une vie volée ».
La question de l'immigration est au cœur de la campagne de Trump depuis l'été dernier, quand il avait dit que de nombreux immigrants mexicains étaient des trafiquants de drogue et des violeurs. Mais il faut dire, John, que l'ancienne première dame et ex-secrétaire d'État a plutôt une autre vision à ce sujet.
Tout à fait. Sur la question de l'immigration, Hillary Clinton propose un assouplissement de l'application de la loi promettant d'expulser seulement les criminels violents et les terroristes. Samedi, Hillary Clinton était elle aussi en campagne, assistée par son ex-opposant démocrate Bernie Sanders et par la populaire démocrate Elizabeth Warren. Tous deux devaient faire campagne pour Mme Clinton dans l'Ohio, état crucial où l'ancienne secrétaire d'État est en difficulté face à son adversaire républicain.
Trump, qui est de nouveau accusé d'inciter à la violence contre Hillary Clinton, John.
Effectivement, Donald Trump était une nouvelle fois accusé vendredi par le camp de sa rivale démocrate d'appeler à la violence contre elle après avoir ironisé sur ce qu'il arriverait si ses gardes du corps étaient désarmés. Hillary Clinton et Donald Trump bénéficient en tant que candidats à la présidentielle de la protection des services secrets américains. Les propos du candidat républicain ont rapidement fait réagir du côté démocrate. Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, a tendance à inciter les gens à la violence, a accusé Robbie Mook, directeur de campagne de Hillary Clinton.
Trump dit avoir enterré la polémique sur le lieu de naissance d'Obama.
Le candidat républicain s'était entêté pendant des années à jeter le doute sur le lieu de naissance du président Obama, en dépit de la publication de son acte de naissance en 2011, précisant qu'il était bel et bien né à Hawaï. Mais il a opéré vendredi un revirement spectaculaire. « Le président Obama est né aux États-Unis, point final », a-t-il déclaré. Hillary Clinton, peu impressionnée par ce point final, a affirmé que Donald Trump devait des excuses au président et aux Américains, l'accusant d'avoir voulu rendre illégitime le premier président noir.
Il faut ajouter ici que Trump, qui est accusé d'avoir alimenté la controverse pendant 5 ans, a dit avoir mis fin à quelque chose que Mme Clinton et son camp avaient commencé en 2008 contre Obama, ce que les partisans de Mme Clinton ont catégoriquement démenti. Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.